réflexion sur l'obéissance, mais je vous invite, Laura, à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui, chaque jour, nous apporte, nous dit quelque chose de toi, nous fait te connaître davantage. Nous permet aussi de connaître ce que nous rencontrons, ceux qui sont auprès de nous. Merci pour ta fidélité. Nous remettons ces moments d'écoute. Loué sois-tu, Seigneur, parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on est pas mal dans l'Ancien Testament, là, mais on va continuer. On a parlé de Samuel. Samuel 8, par contre, là on va revenir un petit peu en arrière sur 1 Samuel 2. Alors, première lecture des versets 12 à 18. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Bien qu'ils fussent prêtres, voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, quelqu'un venait offrir un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourchette à trois dents, il la plongeait dans le récipient, marmite, chaudron ou terrine, et s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venus au sanctuaire de Silo. Parfois même, avant que l'on ait fait brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait un sacrifice « Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir, il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. » Et si l'autre disait « Qu'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite on prendra ce que tu désires », le serviteur lui répondait « Non ». C'est maintenant que tu me le donnes, sinon j'en prendrai de force. Ainsi, les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui apportait. Quant au jeune Samuel, vêtu du pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Alors, un petit mot du contexte de ces sacrificateurs, rappeler que depuis Aaron, on devenait prêtre de père en fils. Le Seigneur accorde au prêtre le droit à une part de ce qui lui était offert en sacrifice par le peuple. C'est relaté dans Nombre. Les recommandations données à Aaron sont précises. Il fallait que les offrandes soient adressées au Seigneur et pour le signifier, elles devaient être brûlées. Et ce n'est qu'après cela que ce qui est d'abord apporté au Seigneur, les prêtres pouvaient prendre une part pour eux-mêmes et en manger. Et les fils d'Élie étaient destinés à succéder à Élie. Et si on se pose la question là du comportement des fils d'Élie, on a vu que l'hérédité n'y fait pas grand-chose. On a lu dans Samuel 8 que les fils de Samuel n'avaient guère fait mieux. Que penser du comportement des fils d'Élie, des hommes sans morale, sans éthique, c'est le même mot en grec et en latin. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont menaçants, ils font régner la loi du plus fort finalement, et ils bafouent l'offrande du Seigneur. Et leur motivation, c'est leur intérêt personnel. assez différent avec l'attitude du jeune Samuel, hein, qui est relaté sur seulement un verset. Quant au jeune Samuel, vêtu de pagne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Alors, Samuel, ça veut dire entendu de Dieu ou exaucé de Dieu. Et c'est le premier grand prophète après Moïse. Son père Elkana avait deux femmes, hein, Pénina qui avait des enfants et Anne qui était stérile. Et Anne pria le Seigneur de lui accorder un enfant et cela lui fut accordé et elle le consacra au Seigneur. C'est Samuel. Et vous voulez relever aussi que la réjouissance d'Anne dans sa prière, alors que son accomplissement n'est pas encore venu, elle se réjouit. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre dans les premiers chapitres de 1 Samuel, enfin, notamment le chapitre 2, hein, Anne qui remercie le Seigneur. Beaucoup de parallèles, on ne va pas s'attarder sur le texte, mais ceux qui s'intéressent de rechercher. Le cantique de Marie et par rapport aussi au cantique d'Anne, il y a beaucoup de points semblables en Luc 46-56, hein. Et donc Samuel, il officiait devant le Seigneur auprès d'Élie. Il connaît le Seigneur même s'il n'a pas encore reconnu sa voix. Vous vous souvenez, on en avait parlé l'autre fois, c'est dans le troisième chapitre de 1 Samuel qu'il va entendre cette voix dans la nuit, lequel il va répondre à Dieu, « Parle ton serviteur, écoute. » Et la suite du texte au verset 22, toujours dans 1 Samuel 2, « Le prêtre Élie était devenu très vieux. Lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites et que même il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre, il leur dit, « Qu'est-ce que j'apprends? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. » Pourquoi agissez-vous ainsi? Arrêtez, mes enfants. Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre un homme, Dieu peut arbitrer, mais si un homme commet une faute contre le Seigneur, qui pourrait arbitrer? Mais ils ne tinrent aucun compte de ce que disait leur père. En effet, le Seigneur avait décidé qu'il devait mourir. Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié, tant par le Seigneur que par les hommes. Alors que dire de la réaction d'Élie face à ses fils? Alors, elle est appropriée, hein, il est très mécontent, mais est-ce qu'elle est suffisante? Pas vraiment, puisqu'il continue à faire ses pratiques. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Élie? Peut-être les exclure du sacerdoce? Et toujours une différence avec Samuel pour lequel il est dit au verset 26, quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. Là aussi c'est à peu près ce qui est dit de Jésus en Luc 2, 52, et Jésus grandissait de corps, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Et puis un peu plus loin, la suite du chapitre, un prophète vint trouver Élie et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte, esclaves du Pharaon, tu sais bien que je me suis fait connaître à eux. Parmi toutes les tribus d'Israël, c'est ton ancêtre Aaron que j'ai choisi pour qu'il devienne mon prêtre, chargé de présenter les sacrifices sur mon autel, d'offrir le parfum et de me consulter. Je lui ai même attribué, ainsi qu'à ses descendants, une part des sacrifices offerts par les Israélites. Alors, pourquoi traitez-vous sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de présenter au sanctuaire? Pourquoi vous engraissez-vous des meilleurs morceaux de ce que mon peuple d'Israël m'apporte en offrande? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce. Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, j'avais promis à ta famille et à ton clan même que pour toujours vous seriez mes prêtres. Mais maintenant, j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. En effet, J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. Et qu'est-ce qui est reproché par ce prophète à Élie et à ses fils? Ben, entre autres leur désobéissance, bien sûr. À Élie, les préférences pour ses fils plutôt qu'à Dieu. Vous vous rappelez des paroles de Jésus dans Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime sa mère et son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Difficile, hein? Ces sacrificateurs foulent aux pieds le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire qu'ils manquent de respect à l'égard de Dieu. Et rappelé dans Hébreux 10, hein, il renvoie à la loi. Tout homme qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, et s'il est reconnu coupable par le témoignage de 2-3 personnes. Donc quelque chose d'extrêmement sévère. Honorer Dieu. Comment comprendre honorer Dieu? Honorer Dieu, c'est le glorifier. Et l'image de la gloire en hébreu, ça renvoie à quelque chose de lourd. Et quand la traduction que j'ai lue traduit mépris, ça renvoie à quelque chose de léger. Fouler aux pieds, c'est quelque chose de léger. Donc quelque chose qui s'oppose à l'attitude des sacrificateurs, elle est très légère par rapport à la lourdeur que doit représenter le fait de glorifier Dieu. C'est cette idée du poids, par rapport à un manque de poids, justement. Glorifier Dieu, c'est apporter du poids au Seigneur. Et en quoi Élie aurait-il pu honorer Dieu plus que ses fils, accorder plus de poids au Seigneur qu'à ses enfants? Les reprendre, bien sûr, mais peut-être même aller plus loin, peut-être jusqu'à l'exclusion du sacerdoce et jusqu'à la séparation. Vous rappelez ces fameux versets de Matthieu 5, verset 29. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre de tes membres que d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Donc des paroles sévères de notre Seigneur. Et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire honorer Dieu plutôt que nos proches? Lui accorder plus de poids que nos proches. Mais quelles en sont les difficultés pour honorer Dieu? Est-ce que Dieu passe toujours à la première place? Quelles sont les difficultés, les obstacles que nous pouvons rencontrer? Peut-être de compter sur nous-mêmes, notre sagesse, notre raisonnement, notre intelligence, plutôt que d'écouter le Seigneur. En quoi notre responsabilité pourrait être engagée face aux mauvais agissements de nos proches? Bien sûr, une information à donner sur ce que demande le Seigneur, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui en est la cause. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à telle ou telle situation? Et donc, il nous est parfois demandé de prendre position, mais aussi d'agir avec discernement, d'essayer de comprendre, d'aimer notre prochain, plutôt que d'asséner, comme on sait trop souvent le faire, un verset biblique ou quelques textes en faisant fi de la souffrance de l'autre. Jamais notre Seigneur n'a agi comme ça vis-à-vis de ses contemporains. Jamais. Avant même de prendre position, l'obéissance passe par ce commandement qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, d'aimer notre prochain et de prier les uns pour les autres, particulièrement pour tous ceux, celles qui ont des responsabilités dans l'Assemblée, dans l'Église, ne pas se comporter en fils d'Élie, mais plutôt comme Samuel, avec une écoute et une obéissance. Je propose de prier. Oui, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui encore. Et tu nous appelles à t'obéir pour que ta volonté soit faite. Merci parce que c'est toi qui nous tiens par la main et tu nous aides à marcher sur les chemins que tu as tracés, toi, pour que nous les pratiquions. Merci pour ces certitudes que tu mets au fond de nos cœurs. Merci pour l'envie de te connaître chaque jour davantage, de partager avec toi, pour que tu sois à la première place, te rendre gloire, Seigneur, par nos vies, là où tu nous mets. Loué sois-tu, Seigneur.